Les Mille et Une Nuits, tome 4, chapitre 5. Le prince Assad arrêté en entrant dans la ville des mages. Le prince Assad prit de l'argent dans la bourse dont Amjad était chargé et continua son chemin jusqu'à la ville. Il ne fut pas un peu avancé dans la première rue qu'il joignit un vieillard vénérable, bien mis, et qui avait une canne à la main. Comme il ne douta pas que ce ne fût un homme de distinction et qu'il ne voudrait pas le tromper, il l'aborda. « Seigneur, lui dit-il, je vous supplie de m'enseigner le chemin de la place publique. » Le vieillard regarda le prince en souriant. « Mon fils, lui dit-il, apparemment que vous êtes étranger. Vous ne me feriez pas cette demande si cela n'était. »« Oui, seigneur, je suis étranger, reprit Assad. »« Soyez le bienvenu, repartit le vieillard. Notre pays est bien honoré de ce qu'un jeune homme bien fait comme vous a pris la peine de le venir voir. »« Dites-moi, quelle affaire avez-vous à la place publique ?» « Seigneur, répliqua Assad, il y a près de 2 mois qu'un frère que j'ai, et moi, nous sommes partis d'un pays fort éloigné d'ici. Depuis ce temps-là, nous n'avons pas discontinué de marcher, et nous ne faisons que d'arriver aujourd'hui. Mon frère, fatigué d'un si long voyage, est demeuré au pied de la montagne, et je viens chercher des vivres pour lui et pour moi. « Mon fils, repartit encore le vieillard, vous êtes venu le plus à propos du monde, et je m'en réjouis pour l'amour de vous et de votre frère. J'ai fait aujourd'hui un grand régal à plusieurs de mes amis, dont il est resté une quantité de mets où personne n'a touché. Venez avec moi, je vous en donnerai bien à manger. Et quand vous aurez fait, je vous en donnerai encore pour vous et pour votre frère, de quoi vivre plusieurs jours. Ne prenez donc pas la peine d'aller dépenser votre argent à la place. Les voyageurs n'en ont jamais trop. Avec cela, pendant que vous mangerez, je vous informerai des particularités de notre ville mieux que personne. » Une personne comme moi, qui a passé par toutes les charges les plus honorables avec distinction, ne doit pas les ignorer. Vous devez bien vous réjouir aussi de ce que vous vous êtes adressé à moi plutôt qu'à un autre, car je vous dirai en passant que tous nos concitoyens ne sont pas faits comme moi. Il y en a, je vous assure, de bien méchants. Venez donc, je veux vous faire connaître la différence qu'il y a entre un honnête homme, comme je le suis, et bien des gens qui se vantent de l'être et ne le sont pas. « Je vous suis infiniment obligé, reprit le prince Assad, de la bonne volonté que vous me témoignez. Je me remets entièrement à vous, et je suis prêt à aller où il vous plaira. » Le vieillard, en continuant de marcher avec Assad à côté de lui, riait en sa barbe. Et de crainte qu'Assad ne s'en aperçût, il l'entretenait de plusieurs choses afin qu'il demeurât dans la bonne opinion qu'il avait conçue de lui. « Il faut avouer, lui disait-il, que votre bonheur est grand de vous être adressé à moi plutôt qu'à un autre. Je loue Dieu de ce que vous m'avez rencontré. » « Vous saurez pourquoi je vous dis cela quand vous serez chez moi. » Le vieillard arriva enfin à sa maison et introduisit Assad dans une grande salle où il vit 40 vieillards qui faisaient un cercle autour d'un feu allumé qu'ils adoraient. À ce spectacle, le prince Assad n'eut pas moins d'horreur de voir des hommes assez dépourvus de bon sens pour rendre leur culte à la créature, préférablement au créateur, que de frayeur de se voir trompé et de se trouver dans un lieu si abominable. Pendant qu'Assad était immobile de l'étonnement où il était, le rusé vieillard saluait les 40 vieillards. « Dévots adorateurs du feu, leur dit-il, voici un heureux jour pour nous. Où est Ghazban, ajouta-t-il, qu'on le fasse venir. » À ces paroles prononcées assez haut, un noir qui les entendit de dessous la salle parut. Et ce noir, qui était Ghazban, n'eut pas plutôt aperçu le désolé Assad qu'il comprit pourquoi il avait été appelé. Il courut à lui, le jeta par terre d'un soufflet qu'il lui donna et le lia par les bras avec une diligence merveilleuse. Quand il eut achevé, « Mène-le là-bas, lui commanda le vieillard, et ne manque pas de dire à mes filles Bostane et Kavam de lui bien donner la bastonnade chaque jour avec un pain le matin et un autre le soir pour toute nourriture. C'en est assez pour le faire vivre jusqu'au départ du vaisseau pour la mer bleue et pour la montagne du feu. Nous en ferons un sacrifice agréable à notre divinité. » La sultane Scheherazade ne passa pas outre pour cette nuit, à cause du jour qui paraissait. Elle poursuivit la nuit suivante et dit au sultan des Indes. 231e nuit. Sire, dès que le vieillard eut donné l'ordre cruel par où j'achevais hier de parler, Ghazban se saisit d'Assad en le maltraitant, le fit descendre sous la salle et après l'avoir fait passer par plusieurs portes jusque dans un cachot où l'on descendait par 20 marches, il l'attacha par les pieds à une chaîne des plus grosses et des plus pesantes. Aussitôt qu'il eut achevé, il alla avertir les filles du vieillard. Mais le vieillard leur parlait déjà lui-même. « Mes filles, leur dit-il, descendez là-bas et donnez la bastonnade de la manière que vous savez aux musulmans dont je viens de faire capture, et ne l'épargnez pas. Vous ne pouvez mieux marquer que vous êtes de bonnes adoratrices du feu. » Bostan et Kavam, nourris dans la haine contre tous les musulmans, reçurent cet ordre avec joie. Elles descendirent au cachot dès le même moment, dépouillèrent Assad, le bastonnèrent impitoyablement jusqu'au sang et jusqu'à lui faire perdre connaissance. Après cette exécution si barbare, elles mirent un pain et un pot d'eau près de lui et se retirèrent. Assad ne revint à lui que longtemps après, et ce ne fut que pour verser des larmes par ruisseaux, en déplorant sa misère, avec la consolation néanmoins que ce malheur n'était pas arrivé à son frère Amjad. Le prince Amjad attendit son frère Assad jusqu'au soir au pied de la montagne avec grande impatience. Quand il vit qu'il était 2, 3 et 4 heures de nuit et qu'il n'était pas venu, il pensa se désespérer. Il passa la nuit dans cette inquiétude désolante. Et dès qu'elle parut, il s'achemina vers la ville. Il fut d'abord très étonné de ne voir que très peu de musulmans. Il arrêta le premier qu'il rencontra et le pria de lui dire comment elle s'appelait. Il apprit que c'était la ville des mages, ainsi nommée à cause que les mages, adorateurs du feu, y étaient en plus grand nombre et qu'il n'y avait que très peu de musulmans. Il demanda aussi combien on comptait de là à l'île d'Ébène. Et la réponse qu'on lui fit fut que par mer, il y avait 4 mois de navigation et 1 année de voyage par terre. Celui à qui il s'était adressé le quitta brusquement après qu'il l'eût satisfait sur ses 2 demandes et continua son chemin parce qu'il était pressé. Amjad, qui n'avait mis qu'environ 6 semaines à venir de l'île d'Ébène avec son frère Assad, ne pouvait comprendre comment ils avaient fait tant de chemin en si peu de temps, à moins que ce ne fût par enchantement, ou que le chemin de la montagne par où ils étaient venus ne fût un chemin plus court qui n'était point pratiqué à cause de sa difficulté. En marchant par la ville, il s'arrêta à la boutique d'un tailleur qu'il reconnut pour musulman à son habillement, comme il avait déjà reconnu celui à qui il avait parlé. Il s'assit près de lui, après qu'il l'eut salué, et lui raconta le sujet de la peine où il était. Quand le prince Amjad eut achevé, « Si votre frère, reprit le tailleur, est tombé entre les mains de quelque mage, vous pouvez faire état de ne le revoir jamais. Il est perdu sans ressources, et je vous conseille de vous en consoler et de songer à vous préserver vous-même d'une semblable disgrâce. Pour cela, si vous voulez me croire, vous demeurerez avec moi, et je vous instruirai de toutes les ruses de ces mages, afin que vous vous gardiez d'eux quand vous sortirez. » Amjad, bien affligé d'avoir perdu son frère Assad, accepta l'offre et remercia le tailleur 1000 fois de la bonté qu'il avait pour lui.